Okapi, Okapi. Okapi.
Et sans plus tarder, je vous invite à suivre l'émission Dialogue entre Congolais avec Claude Quinza à la présentation.
Bonsoir, et vous êtes des millions d'auditeurs de Radio Okapi à travers le monde entier pour suivre cette émission spéciale université. Dialogue entre Congolais donne la parole ce soir à ceux qu'on appelle l'élite de demain. Vous avez compris, il s'agit des étudiants. Situation sécuritaire à l'est du pays, contrat minier, décentralisation et enseignement. Telle est la charpente de l'émission de ce soir. Quels sont leurs points de vue et quelles solutions proposent-ils? Pour y répondre, nous recevons ce soir trois étudiants de trois provinces différentes. Félix Makoko-Balenzi, coordonnateur des étudiants de l'Université de Kinshasa, qui est avec nous dans ce studio. Il est aussi vice-président de la représentation des étudiants du Congo. Grâce Uwimana Chibombo, présidente de l'association des étudiants de Beni au Nord Kivu, qui intervient au téléphone depuis la ville de Beni au Nord Kivu, et Valérie Lukuta, directeur de cabinet du comité des étudiants de l'ISTEM Mbujimayi. Il intervient au téléphone depuis la ville diamantifère de Mbujimayi. Vous êtes nombreux à avoir réagi au thème de ce soir. Bawere de Boutembo dans le Nord Kivu demande si le gouvernement est au courant des conditions exécrables du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire où un professeur ordinaire, selon lui, ne touche même pas 100 dollars américains. David Bwanga de Manono Katanga souligne pour sa part que la pléthore d'étudiants dans les auditoires est un facteur défavorable pour la maîtrise des enseignements dans les universités et instituts supérieurs en RDC. Le gouvernement, selon David Bwanga, doit revoir cet aspect des choses pour améliorer la qualité de l'assimilation des enseignements reçus. Enfin, Alain Alembe-Douvira, au Sud Kivu, dit que la démocratie est un système politique. Or, l'université est un milieu politique, est un milieu apolitique, excusez-moi, donc l'université ne doit pas être politisée.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Nous commençons d'abord par les chapitres sur l'insécurité à l'est du pays. Au Nord Kivu, le quartier Mugunga 1, un quartier périphérique de Goma, a été attaqué mardi dernier. Les FRDC attribuent cette attaque aux hommes de Laurent Kunda. De leur côté, les hommes de Laurent Kunda attribuent cette attaque au FDLR. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, HCR, plus de 28 000 déplacés ont fui cette attaque. Le calme serait revenu quelques heures plus tard, a annoncé la 8e région militaire. Moïse Mutunga.
C'est aux environs de 7h30 ce matin que la position des FARDC sur la colline de Kachaka, île colline, surplombant un camp de déplacés de Masisi, a été attaquée par des hommes armés. Les responsables de la 8e région militaire attribuent cette attaque aux hommes fidèles à Laurent Kunda. Les populations de Masisi hébergées dans ces camps ont fui pour se diriger vers la ville de Goma. Selon la MONUC, plusieurs milliers de personnes sont actuellement au quartier Ndosho, situé à l'ouest de la ville. Le commandant adjoint de la 8e région militaire, Delphin Kaimbi, déclare que, pour l'instant, le calme est revenu à Mugunga. Ses responsables ajoutent que les FARDC ont repoussé dans les parcs les insurgés. Le gouverneur du Nord Kivu, qui s'est rendu sur place, déplore cette attaque du CNDP qu'il qualifie d'un acte de sabotage contre les populations civiles. Julien Paloukou appelle les déplacés à regagner leur camp de Mugunga. Pour leur part, les responsables du CNDP de Laurent Kunda nient être à l'origine de cette attaque qu'ils attribuent au FDLR. Notons que la société civile du Nord Kivu condamne également cette attaque et appelle le gouvernement congolais à prendre ses responsabilités pour sécuriser les populations civiles de la province. De Goma, Moïse Moutunga Lukube, Radio Okapi.
Bonsoir, grâce Uwimana Chibombo.
Oui, bonsoir, M. Claude.
Je rappelle que vous êtes présidente de l'association des étudiants de Beni dans le Nord Kivu et vous intervenez au téléphone depuis justement cette ville de Beni. Comment vous réagissez face à cette attaque qui intervient après la réunion de Nairobi qui a réuni le Rwanda et la RDC, réunion au cours de laquelle la RDC a pris l'engagement d'élaborer un plan d'ici le 1er décembre pour mettre fin à l'insécurité causée par le groupe d'armée Hutu-Rwandais?
Ah oui, en tout cas, la réunion, bon, a eu de l'hier, mais le problème, alors, que suite à cette attaque, je pense que les itérables sont mécontents parce qu'ils devraient nécessairement, après l'accord, déposer leurs armes C'est pour cela que, peut-être, c'est la raison pour laquelle il y a eu des attaques par-ci par-là dans le camp de Mugubira. C'est que je pense que c'était juste pour boycotter. Des insurgés ont boycotté à la YAB. Ils ont voulu montrer leur mécontentement, tout ça.
Mais est-ce que vous pensez que la réunion de Nairobi entre le Rwanda et la RDC, au cours de laquelle ils ont pris des engagements pour neutraliser les rebelles hutu-rwandais, augure d'une solution à l'insécurité dans la région des Grands Lacs?
Non, monsieur, on en a assez avec des accords de réunion par-ci par-là. Deux fois, deux réunions ici pour mettre ça à l'air, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Il faudrait que les deux Congos, certainement, dirigeants, passent à l'action, sans pour autant tarder, parce qu'on en a assez avec des réunions. Les réunions n'aboutissent toujours à rien.
Et quand vous parlez de passer à l'action, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Mais non, c'était juste de. Je voulais dire qu'on mette la main à la face de prendre tous les insurgés qui veulent à tout prix troubler la paix, la sécurité ici à l'est du pays. Parce que nous, peuple, nous sommes fatigués. Il y a des gens qui font une année en brousse. Ils ne voient plus le toit de leur maison, tout ça. Donc il faudrait que le gouvernement vraiment mette la main sur la face. Elle s'attendait à ces gens-là qui ne veulent pas mettre la paix dans le sud du pays.
Est-ce que vous, à Béni, au Nord Kivu, vous êtes touché également par cette insécurité, créée notamment par les insurgés de Laurent Kunda et aussi par des rebelles hutu-rwandais ou d'autres groupes armés d'étrangers dans la région?
À Béni, nous ne sommes pas totalement touchés, mais nous voyons que la partie de Laurent Kunda est tout juste à quelques kilomètres de Béni. Et je ne sais pas les espérants, mais il y a les adresses finales qui trouvent le parti par là. Donc, mais quand même, nous faisons la sécurité ici aussi, parce que nous sommes des Africains unis, et on a la solidarité africaine que nous devons lier et développer tout ça.
Donc vous voulez dire que vous n'êtes pas très très touché au niveau de Béni par l'insécurité comme d'autres Congolais qui se trouvent notamment à Goma ou précisément dans des camps comme Mugunga ou même des Congolais qui se trouvent au sud Kivu, à Walungu et dans d'autres localités?
Pas tellement vraiment, mais nous partageons les sentiments, les douleurs que ces gens éprouvent.
Voilà, nous avons également dans ce studio Félix Makoko Balézi. Je rappelle que vous êtes coordonnateur des étudiants de l'Université de Kinshasa. Vous êtes également vice-président de la représentation des étudiants du Congo. Comment réagissez-vous ici au niveau de Kinshasa en tant qu'étudiant? Vous êtes très loin de ce qui se passe à l'est du pays. Comment vous réagissez par rapport à cette insécurité?
Oui, comme vous le savez, nous suivons les troupes de ce qui se passe au Nord Kivu. Et il est vraiment inquiétable, c'est vraiment inacceptable ce que vive la population du Nord Kivu. Vous savez, ces populations ont fui leur toit paternel et leur village, tout simplement parce que le gouvernement n'a pas été en mesure de leur porter la sécurité. Pour le moment, ils sont entassés dans des cas de regroupement à Mugunga. Et là aussi, le gouvernement n'est pas toujours en mesure de les sécuriser. Je crois que ça
mais la MONUC a quand même sécurisé ses camps en plaçant, par exemple, des militaires et des blindés.
Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez sécuriser. Si dans les villages, ça n'a pas été possible. Même dans les camps, là où ils sont dans les camps aussi, les rebelles arrivent à les attaquer. Mais où est la MONUC en question? Où est la MONUC en question? Moi, je crois que le gouvernement doit assumer ses responsabilités. La sécurité, ce n'est pas une faveur.
Mais est-ce que c'est à la MONUC d'assurer en premier la sécurité des populations congolaises ou c'est une tâche qui revient premièrement au gouvernement congolais en raison de la souveraineté de ce gouvernement sur ce pays?
Je pense que la responsabilité est partagée. Ça revient d'abord au gouvernement de la République démocratique du Congo d'assurer la sécurité de ses citoyens. Mais étant donné que nous avons dans notre pays une mission spéciale pour les messieurs de la paix, qui est la MONUC, mais elle doit s'assumer aussi. Elle doit s'assumer, c'est-à-dire venir en aide au peuple congolais, surtout là où ils en ont besoin, par exemple en Nord Kivu. Mais ce qui n'est pas le cas pour le moment.
Merci beaucoup, Félix Makoko Balinzi. Nous avons également dans cette émission Valérie Loukoussa. Je rappelle que vous êtes directeur de cabinet du comité des étudiants de l'Institut supérieur des techniques médicales en Boujimaï au Kassai oriental. Vous venez de suivre vos deux autres confrères. Comment vous réagissez par rapport à la situation d'insécurité à l'est du pays? Vous, en Boujimaï, vous ne le vivez pas.
Merci, monsieur le journaliste. Au vu de cette situation d'insécurité à l'est du pays, la RDC, c'est une histoire purement complexe. Parce qu'au centre de cette histoire, il y a d'abord le général déchu, Laurent Kunda. Alors, vous venez à peine de dire qu'il y a été des contrats, il y avait des signatures, à Nairobi, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est là juste pour le maintien de la paix. Or, il y a le général de Chinkunda. Mais au centre de cela, vous voyez qu'il n'y a pas longtemps, nous avons assisté à l'opération 1+4. C'était juste pour maintenir la paix. Il y a eu autant de signatures jusqu'à ce que cela soit chose effective. Tant aujourd'hui, les gouvernements, surtout les gouvernements élus, n'est pas capable à peine de mettre fin à cette histoire de Laurent Kunda. Moi, je trouve que c'est quelque chose, c'est une mise en scène, parce que les signatures en République démocratique du Congo, nous en avons vécu autant. Et voilà que autant de signatures, et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites, mais beaucoup de signatures accomplies.
Mais qu'est-ce que vous proposez, vous, en tant qu'étudiant? Vous êtes très loin du nord et du sud Kivu, où ces villes en sécurité. Vous êtes en Boujimaï, à Kassai oriental. Vous vivez quand même une insécurité, mais ce n'est pas une insécurité qui provient de groupes armés, peut-être des bandits. Mais quelles solutions concrètes vous proposez face à l'insécurité à l'est du pays? Rapidement, s'il vous plaît.
C'est que moi je proposerais que le gouvernement prenne les choses à main.
C'est-à-dire?
Que le gouvernement prenne, c'est-à-dire qu'il mette fin à l'histoire du général déchu Laurent Kunda. Il en a les possibilités, il en a les moyens, la Monique est là pour l'accompagner.
Mais il n'y a pas que Laurent Kunda, il y a aussi les groupes armés hutu-rwandais qui sont venus en RDC depuis 1994 et qui pillent, qui violent, qui tuent, qui font toutes sortes de mal.
Comprenez que récemment, celui qui a fortement déstabilisé la population du côté là-bas, c'est le général déchu Laurent Kunda, que le gouvernement jusqu'à là n'a pas pu encore maîtriser. C'est quand peut-être Laurent Kunda sera maîtrisé, qu'on pourra peut-être se tourner vers les intérêts et les autres.
Merci beaucoup, Valérie Loukoussa. Nous repartons à Beni, où nous avons en ligne, grâce à Ouimana Chibombo, vous êtes président de l'association des étudiants de Beni dans le Nord Kivu. Grâce, est-ce que vous êtes d'accord avec Valérie Loukoussa, qui estime qu'il faudrait d'abord que le gouvernement, comme solution, s'occupe d'abord du problème de Laurent Kunda, avant de s'occuper de celui de rebelles hutu-rwandais et des autres groupes armés étrangers qui sévissent dans la région des Grands Lacs?
Effectivement, oui, il faudrait qu'on prenne la main de M. Laurent Kunda parce qu'on dirait que c'est lui qui est la boussole, c'est lui qui est dans les pieds, qui est en train de jouer les gens ici au niveau de l'Est. S'il est pris, le reste viendrait par après. Les autres sont suivis bien. Parce qu'ils sèment la panique par-ci, par-là. Parce qu'il prend déjà, quand on prend les routiers, on prend le massif, c'est celui qui est servi dans différents villages. Mabashini, il était pris vraiment, les autres sont pris vraiment.
Mais vous avez parlé également au niveau de Beni, des ADF Nalu qui commettent aussi des exactions contre les populations congolaises. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut d'abord les faire attendre dans la paix et s'occuper tranquillement de Laurent Kunda. Après, alors qu'eux, ils vont continuer à commettre des exactions contre les populations, notamment de Beni. Rapidement, s'il vous plaît.
Non, en tout cas, bon, je dirais que les ADF mal existent, mais il ne faut pas de panique comme Laurent Kunda le fait ces derniers temps. Parce que je dirais qu'il est venu le fixer pour... Laurent Kunda est là pour trouver la sécurité des gens. Mais ici, chez nous, quand même, avec les ADF, on résiste un peu, quoi.
Vous résistez, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que, bon, ils peuvent toutefois intervenir dans des villages voisins, et je n'étais pas ici en ville de Beni, mais dans des villages avoisinants, Beni ne fait pas
intensivement, quoi. C'est pas d'une façon régulière.
Félix Makoko Balizi, pour clôturer ce premier thème, quelles solutions préconiser pour une paix durable à l'est du pays et pourquoi pas également dans la région des Grands Lacs rapidement?
Oui, ben moi je crois qu'à cette fois, il faut d'abord préciser une chose. Il faut dire que les problèmes, ce n'est pas seulement le Rwanda. Parce que si c'est lui le problème, mais pourquoi on doit toujours chercher à négocier avec les Rwandais? Pourquoi? Je crois qu'il y a une vérité qui est cachée, mais compte tenu des solutions, moi je pense que les gouvernements doivent s'assumer. C'est sûr à s'assumer. Nous avons une armée. Si les solutions militaires sont impossibles, alors qu'on y va avec les solutions diplomatiques, c'est tout à fait normal. Et moi je crois que la meilleure chose pour le moment, c'est de négocier avec ceux qui sont derrière Kunda, parce que Kunda n'est pas le problème. Les problèmes, c'est ceux qui sont derrière Laurent Kunda.
Et c'est qui?
Vous écoutez le Rwanda.
Merci beaucoup. Passons à notre second point, que celui des contrats miniers. L'ONG Global Witness, basée à Londres et spécialisée dans les questions de ressources naturelles, s'inquiète du manque de transparence ayant caractérisé les travaux de la commission gouvernementale chargée de revisiter 60 contrats miniers en RDC. Et pour couper court à toutes les suspicions, cette ONG et beaucoup d'autres ont, dans un communiqué publié le mercredi 7 novembre dernier, appelé le gouvernement congolais à publier ce rapport. Karina Terdiakian, chargée du programme RDC de Global Witness, s'est exprimée là-dessus dans l'émission Dialogue entre Congolais de mercredi dernier, c'est-à-dire hier, suivons-la.
Du côté gouvernemental, là, il y a encore une grande incertitude, puisqu'il y a eu déjà il y a quelques jours certains extraits d'un rapport ou d'un projet de rapport de la commission qui ont été publiés dans la presse. Alors, on ne sait pas très bien si ces extraits représentent réellement une partie du contenu du vrai rapport. Et c'est d'ailleurs pour mettre fin à ces incertitudes que nous et d'autres ONG ont demandé au gouvernement de publier le rapport intégral. Alors, nous ne savons pas s'ils vont le faire, quand ils vont le faire, et nous nous inquiétons d'ailleurs par rapport à ce manque d'informations concernant le processus du côté gouvernemental. Le processus, même jusqu'à présent, a été caractérisé par un certain manque de transparence, donc pour mettre fin à toutes ces rumeurs qui circulent, nous pensons qu'il est impératif que le gouvernement rende public le vrai rapport complet.
Valérie Loukoussa, vous êtes directeur de cabinet du comité des étudiants de l'Institut supérieur des techniques médicales en Bujumaï au Kassai oriental, le Kassai oriental qui est une région diamantifère où l'on exploite le diamant. Il y a notamment la présence de l'amiba. Comme le disait Karina, le gouvernement congolais n'a toujours pas publié son rapport sur la revisitation des contrats miniers, tandis que la société civile qui a travaillé sur 12 contrats miniers disons considérés comme les plus importants parmi les 60 qui ont été examinés par la commission ministérielle, la société civile donc a déjà déposé auprès des institutions comme le Sénat, l'Assemblée nationale, son rapport. Comment vous réagissez par rapport à l'inquiétude de Karina de Global Witness qui s'inquiète du fait que jusqu'à présent le gouvernement a dépassé son délai et il n'a toujours pas déposé, publié ce rapport sur la revisitation des 60 contrats miniers?
Merci pour le problème des contrats, mais c'est que moi j'ai pensé dire que Karina ne soit pas surprise, ce sont là les mots qui rongent les Congolais. Voilà que la commission qui avait en sa charge de faire ce travail et de déposer un rapport dans un délai prévu ne l'a pas fait. La société civile, qui était peut-être là pour le suivi dans le même sens, a fait un rapport qu'il a déposé. Le grand problème, c'est que les Congolais ne se rendent pas compte de là où ils sont en train de partir ou de là où ils sont en train de venir. D'emblée, nous nous retrouvons quelque part. Moi, je me demande si cette commission est montée des cousins et des cousines, parce que si cette commission est vraiment montée des cousins et des cousines, je ne crois pas qu'il y aura un rapport fiable auquel on peut vraiment se fier.
Est-ce que vous avez plus confiance au rapport de la société civile que qu'à celui du gouvernement, de la commission ministérielle?
Ce qui peut nous inciter à la confiance, c'est le fait de les déposer au temps imparti. Si jusqu'aujourd'hui, la commission n'a pas encore déposé son rapport, alors on comprend que c'est un rapport...
La commission ministérielle a déposé son rapport auprès du Premier ministre, mais avec beaucoup de retard, il faut le reconnaître.
Oui, mais vous dites qu'elle a déposé son rapport en fait beaucoup de retard, mais on disait que c'est juste un extrait. On ne sait pas si cela pourra être le rapport définitif. Pourquoi il n'y a pas encore un rapport bien défini.
Et vous, au niveau de Mbujimayi, où vous avez quand même la minière de Bakwanga, la MIBA qui exploite le diamant et qui connaît de sérieuses difficultés, qu'est-ce que vous espérez de cette revisitation des contrats miniers pour notamment le relèvement de la MIBA?
Ouais, ce que nous espérons de cette revisitation, c'est juste que cela tienne. C'est juste que cela tienne parce que, étant donné que nous sommes dans une zone minière et que cela et que tout ne semble pas marcher, surtout avec la grande société ici en place qui est la minière de Bakwanga, tout est par terre. Et notre souhait serait peut-être de revoir cette revisitation être chose effective.
Merci beaucoup, Félix Makoko Balenzi. Vous êtes coordonnateur des étudiants de l'Université de Kinshasa et vice-président de la représentation des étudiants du Congo. Quelle lecture faites-vous au niveau des étudiants de l'Université de Kinshasa? Parce que je suppose que vous discutez quand même de tous ces dossiers sous les contrats miniers. Quelle lecture faites-vous de la revisitation de tous ces contrats miniers et par la commission ministérielle et par la société civile qui a déposé son gouvernement, mais seul le rapport de la société civile est disponible sur son site, mais pas celui du gouvernement.
Oui, moi je pense que on doit d'abord se poser la question de savoir pourquoi les gouvernements n'arrivent pas à publier ces rapports. Pourquoi? C'est ça que ce qu'il faut se poser.
Donc, et pourquoi d'après vous?
Non, moi je pense que le gouvernement c'est une chose, parce que ceux qui sont la plupart de ceux qui sont dans le gouvernement actuel, c'est eux qui ont signé ces accords pendant la transition. Et moi je pense que le peuple congolais a le droit d'en savoir un peu plus. Quel est le contenu de ces accords-là? Quelle est la part du peuple congolais? Mais vous trouverez comme moi, parce que c'est une réalité, que ces accords étaient signés pour des raisons et pour des causes individuelles, pas pour des causes nationales. Et donc, pour laquelle je veux dire qu'une fois de plus, nous sommes en pleine troisième république qui se veut un état de droit. Le peuple congolais a droit à l'information et nous demandons au gouvernement d'avoir le courage de nous faire ces rapports quand nous avons vraiment besoin.
Et vous pensez que si ce travail de revisitation du contrat minier est bien fait, qu'est-ce que le Congo peut en tirer comme bénéfice?
Oui, vous savez, si réellement le gouvernement, parce que vous savez, nous sommes dans une république d'abord, dans une république où le chef de l'État est légitimé et a la légalité et la légitimité. Donc, comme il jouit de ces deux qualités, il a ses devoirs de travail pour le peuple congolais. Et je ne pense pas que pour le moment, il peut avaler de signer un accord où le peuple congolais ne se retrouve pas. C'est pour ça que je demande que le gouvernement ait le courage de faire la révision de ces accords pour le bien-être du peuple congolais. C'est vraiment important. Mais par rapport au rapport, tel que vous l'avez déjà souligné, publié par la société civile, mais acceptez que je vous dise que je ne suis pas tout à fait d'accord qu'il y ait vraiment une société réellement civile à l'RDC. Merci beaucoup.
Merci Félix Makoko, cela ne vous engage que vous-même. Grâce Uwimana Chibombo, vous êtes présidente de l'association des étudiants de Béni dans le Nord Kivu. Vous intervenez justement au téléphone depuis cette ville de Béni. Est-ce que chez vous à Béni, on exploite également des minerais?
Ah oui, les minéraux sont exploités d'une façon illicite. Il n'y a pas vraiment de lier la profite, mais sans, les minéraux sont exploités illicitement, quoi.
Quel genre de minéraux?
D'une façon légale.
Quel genre de minéraux?
Il y a trop de minéraux. Il y a de l'or, il y a des diamants qui sont exploités dans les villages environnants, la ville de Béni.
Est-ce qu'il y a aussi des grandes sociétés qui exploitent des minéraux là-bas, à Béni ou dans le Grand Nord?
Malheureusement, il n'y en a pas. Il n'y a que des grands messieurs qui s'approprient des propriétés terriennes pour
pour en faire leurs exploitations privées pour aller des éclaireurs. Et malheureusement, il n'y a pas de grandes sociétés vraiment qui peuvent s'en occuper.
Et qu'est-ce que vous, au niveau de Béni, vous en parlez sûrement dans les cercles des étudiants, le Congo regorge de fortes potentialités minières. Qu'est-ce que vous attendez de la revisitation de ces contrats miniers qui, pour certains, ont été signés pendant que le pays était en guerre?
C'est vraiment une très bonne histoire, c'est une bonne chose si ce contrat-là parvenait à satisfaire aux besoins des communautés locales. Parce que vous voyez, c'est surtout dans des milieux où on exploite des minéraux que les gens croupissent dans la misère. Il y a pas de route, il n'y a pas quoi que ce soit. Les gens croupissent dans la misère. Alors ça serait une bonne chose pour réhabiliter. C'est une milliard pour permettre aux populations locales d'en bénéficier, d'en tirer profit.
Merci beaucoup, Gatouimana. Rapidement, je reviens à vous, Valérie Loukoussa. Vous êtes directeur des cabinets du comité des étudiants de l'ISTEM en Mbujima au Kassai Oriental. Est-ce que l'AMIBA contribue également à l'épanouissement de l'enseignement universitaire, supérieur et universitaire? Je veux dire par là, est-ce que l'AMIBA subventionne ou aide aussi l'université, par exemple en fournissant des livres ou peut-être du matériel didactique?
Oui, comprenez que du temps où l'AMIBA était MIBA, c'est-à-dire du temps où l'AMIBA fonctionnait normalement, nous avons des cas typiques de l'université de Dumbujimaï, qui vraiment bénéficiait d'un délai de la part de l'AMIBA. Et dans les restes des institutions supérieures universitaires, l'AMIBA avait quand même un pourcentage de subventions, soit des matériels, financiers que l'octroyer à ces dernières pour leur épanouissement.
Oui, grâce au Imana, vous intervenez depuis Butembo, Béni, au Nord Kivu. Vous êtes étudiante là-bas, représentant de l'association des étudiants de Béni. Est-ce que certains étudiants abandonnent aussi les études pour s'adonner à un enrichissement facile en exploitant, par exemple, artisanalement les minerais là-bas chez vous à Béni? Rapidement, s'il vous plaît.
Ben, ici, chez nous, tellement qu'il n'y a pas vraiment, de toutes les façons, l'exploitation, c'est fait d'une manière difficile. Les étudiants s'adonnent moins, à cette exploitation-là, mais ils s'adonnent à d'autres activités à part l'exploitation minière.
Merci beaucoup, grâce au Wimana. Avant de passer à notre troisième thème, voici comment vous pouvez réagir.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Le projet de loi sur la décentralisation est attendu par les provinces pour permettre à celles-ci de se développer. Les grandes lignes de ce projet de loi dans ce condensé de notre confrère Guirogé Niampala.
Nous avons revendiqué un salaire décent, donc un barème décent pour toutes les...
Ce projet de loi a été reçu le 18 juin dernier à la Chambre basse du Parlement. Il est en cours d'examen à la Commission politique administrative et judiciaire de l'Assemblée nationale. Il contient 173 articles regroupés en 5 grandes parties essentielles. Il y a la structure territoriale, administrative, ainsi que les structures organiques et fonctionnelles des provinces et des entités territoriales décentralisées. Cette partie fixe les limites territoriales des 26 provinces, villes, communes urbaines, communes rurales, secteurs ou chefferies. Nous retrouvons également les compétences, les charges, les responsabilités entre le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées. L'article 149 de ce projet de loi définit les matières qui relèvent du pouvoir central, telles que l'établissement d'enseignement applicable à tous les territoires de la République ou la défense et la police nationale. L'article 153 détermine les compétences exclusives dévolues aux provinces, par exemple la gestion des finances provinciales ou les emprunts intérieurs, des modalités de collecte, des distributions distribution et des gestions des ressources financières propres rétrocédées sont contenues dans la troisième partie de ce projet de loi. Selon l'article 157, les provinces auront 40% de recettes réalisées. Selon le gouvernement, la retenue à la source de ces 40% sera effective dès janvier 2008. La répartition des ressources humaines en matière d'administration publique, les mécanismes de contrôle en vue d'harmoniser la collaboration entre le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées sont fixés dans les points 4 et 5. La partie finale garantit la continuité des textes existants en attendant l'adoption et la promulgation de ce projet de loi.
Merci Guy Roger. On n'a pas à excuser nos professeurs des agréments au début de cet élément. Spécial université, les étudiants congolais ont la parole. Situation sécuritaire à l'est du pays, contrat minier, projet de loi sur la décentralisation, enseignement. Quels sont leurs points de vue et quelles solutions proposent-ils? Ce sont là les thèmes du dialogue entre Congolais de ce soir et nous avons invité trois étudiants des universités de trois provinces du pays. Félix Makoko Balezi, président des étudiants, coordonnateur des étudiants de l'université de Kinshasa et vice-président de la représentation des étudiants du Congo. Grâce Ouimana Chibombo, président de l'association des étudiants de Beni dans le Nord Kivu. Et Valérie Lukusa, directeur des cabinets du comité des étudiants de l'ISTEM Bujimaï au Kasaï Oriental. Félix Makoko Balezi, qu'est-ce que vous, en tant qu'étudiant de l'université de Kinshasa notamment, vous attendez de la décentralisation?
Oui, vous savez, comme vous le savez, nous avions aussi participé à ces forums et qui est organisé par les ministres de l'Intérieur du 3-5 octobre 2007 au Kantaté Kinshasa. Mais je pense que c'est un processus, c'est l'objectif est de permettre le développement local. Et moi, je pense que il n'est pas facile de dire ici que les provinces seront vite développées par rapport aux ETD, entités territoriales décentralisées. Mais moi, je crois qu'il y a déjà une base, c'est celui dont tout le monde se soit décrit aujourd'hui, l'autonomie des provinces. Moi, je pense que il n'est pas facile de dire aujourd'hui que non, les pays décentralisés, il y a encore beaucoup à faire, mais disons, il y a déjà une base.
Grâce à Ouimana Chibombo, est-ce que vous pensez que, vous d'abord, au niveau de Beni, au Nord Kivu, qu'est-ce que vous attendez de la décentralisation, avec notamment la possibilité pour les provinces, d'ici l'année prochaine, de retirer 40% à la source pour le développement de la province, et non plus d'envoyer tout l'argent ici à Kinshasa et que Kinshasa pourrait rétrocéder. Qu'est-ce que vous attendez de la décentralisation?
En tout cas, monsieur le journaliste, je vois que la décentralisation serait installée pour tous les Congolais, avant que personne n'y ait, parce que c'est par son principe, la décentralisation des entités administrativement décentralisées bénéficie d'une autonomie de gestion du point de vue organique fonctionnel, mais aussi du point de vue budgétaire. À cela, bon, je crois que le respect de cette question renvoie à une démocratie locale, car dirigée par les autorités locales qui ont été élues par la population elle-même. En plus, je vois que la décentralisation permet à la population de se prendre en charge, quoi, de finir la base par la base. Les aspirations de la population sont transformées en contraintes locales. C'est la demande à la population. C'est dire que vraiment, la décentralisation est une solution et qu'il faut passer pour tout comme on est aujourd'hui ici en ville de Béni.
Merci beaucoup, grâce Ouimana. Valérie Lukusa, vous intervenez depuis Mbujimaï, vous êtes de l'ISTEM, représentant du directeur de cabinet du comité des étudiants de l'ISTEM en Mbujimaï. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas aussi un petit danger à aller vite au niveau de la décentralisation?
Oui, évidemment. Moi, je pense qu'il y a toujours un petit danger. Pourquoi? Parce que cette décentralisation, la retenue à la source donc, dont je veux parler, la retenue à la source a été d'abord promise, je crois, elle pouvait être effective depuis le mois de septembre. Voilà que nous sommes passés du mois de septembre, aujourd'hui nous retrouvons au mois de janvier 2008. Et moi je me demande, les lois seront déjà votées et que cela pourra être chose effective. Les dangers que nous courons seraient
plutôt de parler que nous sommes décentralisés, alors que nous dépendons toujours du pouvoir central. Moi, c'est à quoi je m'attends personnellement, c'est que cela soit chose effective. Parce que avec le système du Congo, je ne parviens pas à comprendre. Ça s'est dit, mais ça ne se réalise pas.
Mais excusez-moi, Valérie Loukoto, est-ce que en Boujimaï, la population, hein, mais c'est tout le monde, est-ce qu'il comprend ce que signifie la décentralisation?
Ouais, je crois à ce niveau là-bas, il faut encore une vulgarisation, parce que c'est quelque chose qui est presque méconnu de la plupart de la population. Moi, je disais, il faudra une vulgarisation. Mais à mon avis, la décentralisation sera vraiment chose bonne.
Merci.
À tel point que ça va permettre le plan développement de la province.
Merci beaucoup. Rapidement, parce qu'on va partir, à la dernière partie de cette émission. Félix Makoko, vous êtes coordonnateur des étudiants de l'université de Kinshasa. Est-ce que vous pensez que la décentralisation est une des solutions pour le développement de toutes les provinces du pays?
Je reste vraiment optimiste que ce sera vraiment une solution une fois qu'il sera vraiment appliqué dans ces pays.
Dans quelle mesure?
Dans la mesure où ce que la loi va prévoir sera appliqué, c'est-à-dire le principe des 40%, s'il sera respecté, donc ça va réussir.
Merci beaucoup, Félix Makoko. Nous accueillons dans ce studio notre confrère Guy Roger Nyampala qui a préparé cette émission. Que disent nos auditeurs? Bonsoir d'abord, Guy Roger.
Bonsoir, Claude Kaza. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi. Jean-François Kiasil Mfour du club des auditeurs de Radio Capi de Bandundouville dans la province qui porte le même nom pense qu'il est très tôt de parler de la décentralisation. Il appelle plutôt le gouvernement à prendre ses responsabilités pour le développement de toutes les provinces car la démocratie s'apprend au jour le jour. Mumbere Moussavouli de Boutembo au Nord Kivu pense que pour sécuriser l'Est, il faut que la RDC fasse appel à d'autres pays militairement forts. Alain Alembe d'Ouvira au Sud Kivu dit que la démocratie est un système politique. Or, l'université est un milieu apolitique, donc l'université ne doit pas être politisée. Pour Junior Paca de Bounia dans la province orientale, le gouvernement songe plus aux étudiants de Kinshasa qu'à ceux des provinces.
Merci beaucoup Guy Roger Nyampala. Vous nous permettez de passer directement à la dernière partie de cette émission sur l'enseignement. L'arrêt de travail observé depuis mardi dernier se poursuit dans tous les établissements, centres de recherche et services spécialisés de l'enseignement supérieur et universitaire de Kinshasa, à l'Université de Kinshasa, à l'Université pédagogique nationale, à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA, à l'Institut facultaire des sciences et l'information de la communication IFACI et tant d'autres universités et instituts supérieurs officiels de Kinshasa. Un seul constat, tous les services demeurent paralysés. Le professeur Albert Kabamba Mwewu, président de la dynamique des syndicats et associations du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire, nous donne leurs revendications. Il est joint au téléphone par notre confrère Stéphane Moukendin-Kita.
D'abord, on revendique un salaire décent. Donc, un barème décent pour tous les personnels et surtout pour les professeurs d'université. Nous également, nous disons que depuis le gouvernement de transition, on avait commencé l'amélioration des conditions de vie et de salaire du personnel de l'enseignement supérieur. On devait y aller par palier. On a le premier palier et le reste, on n'a jamais suivi. Et c'est à cause de ça que nous mettons également en grève. Concernant le budget 2007, on a donné un montant forfaitaire à tous les personnels de l'enseignement supérieur et également de la fonction publique. Partout, on a donné 14 500 francs. Ça, c'est général à toute la République. Mais le budget en soi n'a pas été exécuté. Parce que d'après notre connaissance, c'est-à-dire que notre budget qui était de 14 milliards quelque chose hein, pour l'année 2006 est passé à 19 milliards et quelques tiers de millions. Mais ça veut dire qu'il y a une différence de 4 milliards 600 que nous ne savons pas comment est-ce qu'on a réparti. C'est ça que nous réclamons, d'autant plus que d'ici peu, le gouvernement doit déposer le budget au Parlement pour la discussion.
Notons également qu'à l'IEC Goma, il y a aussi grève là-bas, il y a arrêt de travail. Je reviens à vous, grâce au Imana Chibombo, vous êtes présidente de l'association des étudiants de Beni au Nord Kivu, vous intervenez depuis cette ville au téléphone. Comment vous réagissez face à toutes ces grèves?
En tout cas, on réagrave les choses de l'éducation mariée. On n'a pas touché nous. Comment se fait-il qu'un professeur ou un chef de travaux ou un assistant qui ne touche pas, ne puisse pas ouvrir et faire l'institution ou faire l'université? Et ce qui crée ces derniers temps la prolifération des institutions, parce que le gouvernement ne sait pas prendre en charge le personnel enseignant, le corps enseignant, quoi. C'est-à-dire que vraiment, nous appelons le gouvernement à prendre la même responsabilité quant à ce qui est de l'enseignement. Parce que si le gouvernement ne s'y met pas vraiment, on voit que tout le monde n'aboutira à rien.
Mais est-ce que vous, à Béni, vous étudiez? Est-ce que le professeur donne cours à l'université?
Oui, il y a des professeurs qui donnent cours, mais qui se ramassent par-ci par-là. Ils n'ont pas vraiment un salaire. Ils ont un salaire là, vraiment minime. C'est déplorable les conditions dans lesquelles ils vivent.
Merci beaucoup, grâce Ouimana. Valérie Loukoussa, vous intervenez depuis le Mboujima et vous êtes étudiant là-bas. Et qu'est-ce que vous dites de Junior Mpaka de Bounia dans la province orientale qui pense que le gouvernement congolais songe plus aux étudiants de Kinshasa qu'à ceux des provinces?
Personnellement, je ne comprends pas quand il dit que le gouvernement pense plus aux étudiants de Kinshasa que des étudiants des provinces. Parce que vous venez à peine de dire que les institutions d'enseignement supérieur et universitaire de Kinshasa ont crevé. Alors que ma collègue là-bas vient de dire que du côté de Béni, ils sont en train d'étudier.
Du côté de Béni.
Du côté de Béni, pardon. Ils sont en train d'étudier.
Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique cela?
Personnellement, je ne parviens pas à les comprendre, parce que c'est Kinshasa qui est la capitale, c'est Kinshasa qui déclenche d'abord les mouvements, et les mouvements se répercutent dans les provinces.
Est-ce que vous recevez vos bourses là-bas? Les bourses du gouvernement?
Depuis que cette année académique a commencé, j'ai les mises au point.
Oui, merci beaucoup. Félix Makokobanizi, vous êtes coordonnateur des étudiants de l'Université de Kinshasa. Comment vous réagissez par rapport à tous ces mouvements des grèves? Est-ce que chez vous, les enseignants assument leur cours à l'Université de Kinshasa?
Oui, c'est ici donc une occasion pour moi de m'adresser à tout le monde et de dire ce qui suit. C'est depuis mardi qu'il y a un mouvement d'arrêt de travail à l'Université de Kinshasa. Et nous ne sommes pas du tout d'accord avec cette année de travail.
Pourquoi?
Mais comme vous le savez, nous sommes en pleine session pour les uns, pleine défense pour les autres. Mais ce qu'il faut, il faut aussi confirmer, c'est que les revendications des enseignants sont valables. Vous savez, bien payer l'enseignant, c'est nous épargner de plusieurs problèmes. C'est ce que j'appelle les gouvernements.
Quel problème, par exemple?
Les problèmes liés en fait, à la vente des syllabus, au monnayage, des points pour certains cas isolés, sont vraiment des cas isolés. Mais moi, je crois que les gouvernements donc, ont fait beaucoup d'efforts pour arriver à trouver une solution le plus vite que possible. Parce que nous ne pouvons pas continuer à accepter de rester à la maison encore un jour de plus.
Exactement. Vous avez déjà des années académiques trop longues à l'Université de Kinshasa. Est-ce que vous pensez, Félix Makokobalézi, que la formation dispensée aujourd'hui dans nos universités est adaptée aux besoins du pays? Parce qu'aujourd'hui, avec l'informatique, vous pouvez avoir un diplôme d'université, mais lorsque vous ne connaissez pas comment manier l'outil informatique, vous êtes presque un analphabète aujourd'hui au 21e siècle.
Alors, vous savez, pour dire la vérité, l'enseignement en RDC n'existe pas. C'est ça la vérité.
C'est-à-dire?
Ce qu'on fait là, c'est du bricolage. Ouais, c'est ça la vérité. Et c'est là où j'interpelle encore le gouvernement à pouvoir doter les universités des moyens pouvant les permettre de bien donner cours. Parce que l'avenir de ce pays, c'est l'enseignement. Et il est vraiment inacceptable qu'on puisse vraiment négliger ce secteur aussi important dans l'avenir de ce pays. C'est vraiment normal. Je dis encore, que le gouvernement fasse le plus vite que possible à trouver une solution au problème des enseignants. Parce que même nous étudiants, nous ne pouvons pas continuer à supporter encore des préjudices que une journée encore.
Écoutez un peu ce que David Bouanga de Manono Katanga dit. La pléthore d'étudiants dans les auditoires est un facteur défavorable pour la maîtrise des enseignements dans les universités et instituts supérieurs en RDC. Le gouvernement, selon David Bouanga, doit revoir cet aspect des choses pour améliorer la qualité de l'assimilation des enseignements reçus. Votre réaction en 30 secondes grâce au Imana?
En tout cas, c'est une bonne chose. Le gouvernement a prenait en main ses responsabilités. Il n'y aurait pas la prolifération des institutions supérieures, même l'université. Quelqu'un se réveille le matin, il va créer son institution. Et comment maintenant sera l'enseignement de demain? Parce que dans le temps, il y a des étudiants qui parachutent par-ci, par-là. Ils vont étudier parce qu'ils vont essayer de les étudier.
Merci.
Si le gouvernement prenait certaines mesures pour qu'il y ait accès au niveau des institutions supérieures, ça
nous fera beaucoup. Grâce à Wimana, c'est avec vous que nous terminons cette émission Dialogue entre Congolais. Jean-Noël Mokondo était à la console, Kelly Nkouté à la réalisation et Guy Roger Nyampala vous a préparé cette émission. À eux et à tous nos invités, je dis merci et au revoir. Et ça, ce n'est qu'une première pour une série d'émissions avec les étudiants. Au revoir.